Donc on va commencer Bezrat Hashem le dernier cours sur Igaret Hatshuva, sur le chapitre 11. Qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début du chapitre 11? On a parlé d'un nouveau piège du Yetzarara. Le piège que le Yetzarara va essayer de dire à la personne, il va lui dire, écoute, tu sais, peut-être que ta Teshuva n'était pas au top. D'accord? Peut-être que ta Teshuva n'était pas au top. Et donc, c'est comme ça que le Yetzarara va essayer de nous calmer. Finalement, le Yetzarara n'a pas si tort que ça. Pourquoi? Puisqu'on avait expliqué une notion qu'on avait expliquée dans le chapitre 34 du Tanya, que on est capable d'être en même temps joyeux pour certaines choses et triste pour une autre chose. Et c'est deux sentiments qui se passent en même temps. D'accord. Donc, en même temps, on peut être joyeux du fait qu'on a fait Teshuva, et en même temps, on peut être triste des avérotes qu'on a fait par le passé. Certes. C'est vrai que le Yetzarara n'a pas tort. Sauf que, ce qu'on a expliqué. On a expliqué que ça, c'est un piège du Yetzarara. Le Yetzarara, pour faire tomber la personne, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu sais, ta Teshuva n'a pas vraiment été acceptée. Ça, c'est ce qu'on a étudié il y a 2 semaines. Donc, on a expliqué qu'en vérité, on doit savoir qu'il doit être évident pour nous, sans l'ombre d'un doute, que c'est évident que Kadosh Baruch Hu nous a pardonné. La preuve, c'est qu'on se permet, on sort de faire une bracha, de dire Baruch Ata Hashem Chanun Hamarbe l'histoire, qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné, il est miséricordieux, il nous a pardonné, et on se permet de faire une bracha, alors qu'on sait qu'une bracha, quand on fait une bracha, c'est qu'on est sûr de ce qu'on fait, sinon on n'a pas le droit de faire une bracha. C'est numéro 1. Numéro 2, ce qu'on a expliqué, on a dit pourquoi on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné, parce que Akadosh Baruch Hu nous l'exige à nous. Quand une personne nous a fait une crasse, qu'est-ce qu'il se dit Akadosh Baruch Hu? Il faut lui pardonner au plus tôt. Et le nombre de fois, le nombre de chances qu'on te laisse pour essayer de faire la tête, d'accord, de faire un peu le dur comme ça, il y a des gens comme ça pour montrer que tu m'as blessé, il dit pas pardon, tu vois. Le nombre de crédits que la Torah m'accorde pour faire ce petit jeu, c'est 3 fois, maximum. Au bout de 3 fois, on dit ça y est, après c'est fini, après il ne demande plus le pardon. Donc c'est évident que Akadosh Baruch Hu, qui nous demande à nous de pardonner au premier coup et d'être chanoun, d'être miséricordieux, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, est miséricordieux. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a expliqué il y a 2 semaines. Donc, on a désamorcé un premier piège du Yetzarara, qui vient nous dire, tu sais, ta Teshuva, c'est pas sûr que ta Teshuva est acceptée. Ah, en revenant. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je vois que ça vous a plu. Baruchim Abayim. Installez-vous, voilà. Viens, Jacob. On va crier un peu dans tes oreilles. Viens. Il est devenu sensible, tu sais. Âme sensible, s'abstenir. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours d'il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le cours d'il y a 2 semaines? On avait expliqué. Allez, messieurs. On avait expliqué dans le cours, ce serait bien si on peut s'efforcer de commencer un peu plus tôt, même 30, on va dire entre 30 et 35. Comme ça, au lieu d'avoir 10 minutes, un quart d'heure de battement, on a 3 à 5 minutes de battement. C'est mieux, comme ça nous permet de gagner 10 minutes. Ouais. Alors, non, je parle à tout le monde. Non, c'est... C'est pas une critique, Rassel Shalom. Alors, j'étais en train d'expliquer. Que ce qu'on a expliqué dans le cours d'il y a 2 semaines... On a expliqué que on a désamorcé un premier piège du Yetzarara. Le Yetzarara, il vient te dire, quand une personne a fait Teshuva, tu dis, écoute, tu sais, peut-être que ta Teshuva n'a pas été acceptée, peut-être que tu n'as pas fait une bonne Teshuva. Sur ça, on est venu répondre au Yetzarara. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, on est sûr à 100% que ma Teshuva a été acceptée pour les 2 raisons qu'on vient de citer. Numéro 1, Chanoun a marvel l'histoire dans l'Amida. Numéro 2, puisque Kadosh Baruch Hu nous exige à nous-mêmes de pardonner rapidement. Donc c'est clair que lui nous a pardonné. D'accord. Maintenant, la semaine dernière, on a développé un autre concept. Toujours un autre piège du Yetzarara. On dit, mais attends, le Yetzarara, il est pas si bête que ça. C'est pas comme ça que tu fais tomber ton Yetzarara. Tu dis, bon, t'inquiète pas, tu t'es pardonné. Attends, y a un problème, là. C'est que Dieu, c'est pas une fois qu'on a fait la même avéra. C'est une fois, 2 fois, 3 fois. On a expliqué que tellement de fois on fait la même avéra, qu'on se retrouve à demander presque 3 fois par jour pardon. Et que ça, c'est évident que même une personne qui est chanoun, qui est miséricordieux, on a expliqué que la Gemara nous dit qu'au bout de la, déjà à partir de la 2e fois, une personne a du mal à être mochel. À partir de la 2e fois, une personne a du mal à être mochel, Et donc il arrive pas à pardonner. Alors comment tu veux que nous on fait Yavera une fois, deux fois, trois fois, et même trois fois par jour et dix fois par jour, comme ce qu'on a pu expliquer la semaine dernière. Blikvul v'tachnit, sans s'arrêter. Et Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Et ça c'est le chidouche qu'on a expliqué la semaine dernière. Le chidouche qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est qu'on doit savoir que Kadosh Baruch Hu, étant donné que Kadosh Baruch Hu est illimité, donc pour Kadosh Baruch Hu, il nous pardonnera de la même manière la première fois et la 10 000e fois. Pour Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que pour qui ça fait une différence? C'est pour nous, êtres humains, qui sont limités. Comme on est limité, je dis, bon, une fois, je vais me pardonner. Deux fois, je vais me pardonner parce que j'ai une limite. Mais Akadosh Baruch Hu, qui est illimité, il peut pardonner une fois, deux fois, trois fois, 10 000 fois. Il pardonnera à chaque fois exactement de la même manière, sans aucune différence. Le dernier point qu'on a étudié la semaine dernière, on a dit, mais finalement, est-ce que ça ne s'apparente pas à Omer, Echeta et Achouv? Le fait de s'amuser à ce petit jeu, de dire, bon, je vais fauter et je ferai teshuva. On a dit qu'une personne qui fait ça, on ne le laisse pas faire teshuva. Alors, est-ce que le fait que je fais maintenant ma amida, en sachant que demain, je referai l'amida pour la même chose, est-ce que ça s'appelle pas jouer à ce petit jeu? Dire, je faute et je ferai teshuva. Et là, on a désamorcé encore une fois cette bombe, on a dit non. C'est pas un problème. Pourquoi? Puisqu'au moment où la personne fait teshuva, il demande sincèrement à Kadosh Baruch Hu de l'aider à ne plus recommencer. Ah, après, il a craqué. C'est pas ça, Echeta V'Achouv. Echeta V'Achouv, c'est une personne qui, au moment où il faute, il compte sur le fait qu'il fera teshuva après. Ça, c'est un problème. Mais dans 99,9% des cas, comme on a expliqué la semaine dernière, une personne qui fait teshuva, lorsqu'il fait sa amida, il est sincère, il dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, aide-moi pour que ça se reproduise là. Il est sincère. Sauf que bon, ça va se reproduire. Et c'est là la bracha qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à ce que ça se reproduise plus. On a expliqué la semaine dernière qu'avec le temps, ça marche. Parce qu'on voit bien qu'avec le temps, on ne fait plus les mêmes avérotes. Après, on évolue. Pourquoi on évolue? Parce qu'Akadosh Baruch Hu accepte, notre filote. D'accord. Alors maintenant, on va passer à Umash et Katou Vechatatin Exitami. On va désamorcer encore une bombe. Hein, il désamorce beaucoup de bombes dans ce Perek. Alors, on est dans la page, normalement, c'était là, 384. Umash et Katou, donc 4 lignes avant la fin de la page 200. D'accord. Donc, on a déjà désamorcé plusieurs pièges. Premier piège, le Yetzahara, il me dit, oui, mais ta teshuva n'a pas été acceptée. Réponse, ma teshuva n'a pas été acceptée, c'est évident. Deuxième piège, je dis oui, mais ça fait tellement de fois à la Vera que même Dieu voudra plus te pardonner. Réponse, Dieu est illimité. D'accord? Piège numéro 3 qu'on a dit, le Yitzhara va te dire oui, mais puisque toi, quand tu fautes, tu comptes sur la Teshuva, donc une personne comme ça, on ne le laisse pas faire Teshuva. Comment on l'a désamorcé ce piège? On l'a dit pas du tout. Moi, quand je fais Teshuva, je compte pas sur le de refauter par la suite. Et quand je faute, je compte pas sur la Teshuva. J'ai craqué et c'est tout. D'accord. Alors maintenant, l'Admor Hazaken, maintenant, il va désamorcer un quatrième piège. Un quatrième piège, et qui est un piège qui est spécifique à la chassidut. Vous avez remarqué que concrètement, on a eu une approche dans ce Pérec qui est très positive de la Teshuvah. Qui est extrêmement positive. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que la Teshuvah, c'est les pleurs et la tristesse, etc. On voit que l'Admor Hazaken ici a eu une approche très positive. Et qu'il nous a pas laissé nous prendre la tête, quoi. À la limite, dès que la personne commence à dire oui, mais est-ce que t'es sûr, tout de suite il arrête. Il dit, t'occupe pas, avance, fonce. C'est un terme qui est revenu plusieurs fois dans les prakim derniers. Donc apparemment, c'est la chute de la chassidut. C'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que, attends, il a fauté quand même. Et on sait que le psaume de référence qui parle de la teshuva, c'est quel psaume? C'est le psaume 51. C'est vrai que le psaume nous alef. On en a parlé d'ailleurs, le psaume nous alef. On en a parlé il y a 3 semaines. D'accord? Il a ramené exactement, on avait dit que, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Kerov rachamecha mechepsha'ay, Kadosh Baruch Hu efface mes fautes. D'accord. Et dans ce psaume 51, il a écrit aussi autre chose, qui n'est pas si positif que ça. Donc je suis à la page 200, 4 lignes avant la fin. Ma, shekatu, vechatatin, negditami. A priori, dans ce même psaume, dans lequel tu me dis que tu t'es focalisé sur la miséricorde, sur le fait que Kadosh Baruch Hu est bon et gentil, et il nous pardonne, et une fois, et deux fois, et 10 000 fois, et 100 000 fois, et 3 fois par jour, et 2 milliards de fois dans une vie, il n'y a pas de problème, je te l'accorde. Mais dans ce psaume, David Amelech a dit encore autre chose, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, Vechatati Negdi Tamid. Lorsque Nathan, le prophète, est venu réprimander David Amelech après la faute, enfin, après ce qu'il a fait avec Bathsheba. Pas une faute, bon, en tout cas, après ce qu'il a fait avec Bathsheba. Qu'est-ce que David Amelech a dit là-bas? Au tout début du psaume, il a dit, Vechatati Negdi Tamid. Ma faute est toujours devant moi. Ça veut dire quoi avoir que sa faute toujours devant soi? Ben, ça veut dire qu'il y pense toujours. Donc c'est pile le contraire de ce qu'on a expliqué depuis plusieurs cours. Depuis plusieurs cours, on n'a pas dit on ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas, on t'a pardonné, on t'a pardonné, on t'a pardonné, avance, fonce. Attends, mais c'est ça ce qu'a dit David Améler. David Améler a dit Ratatina Gitamit, qui pense constamment à sa avérote. Alors comment on peut dire le contraire? Alors l'Admor HaZaken, il a un grand chidouche ici. Il dit on a mal compris. On a mal compris le psaume 51. Il dit, le terme neged en hébreu, ça veut dire en face, mais ça veut dire aussi contre. Et ça c'est un des pièges de la langue hébraïque. C'est que le même mot, il peut vouloir dire deux choses, d'accord, une chose et son contraire. C'est le, voilà, on a un exemple, neged. Neged, ça peut vouloir dire en face de moi, et ça peut vouloir dire contre moi. Ça change tout. Si je dis en face de moi, ça veut dire qu'on discute, on dialogue. Si je dis contre moi, bah, ça veut dire contre moi. Et c'est le même mot en hébreu, neged. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas... Alors, je vais vous donner un autre exemple dans la Torah, dans lequel le terme neged est employé en bien. Par exemple, lorsque les Bnei Israël étaient face au mont Sinaï. Donc, ils attendaient la Torah. Et là, on nous raconte que les Bnei Israël ont eu une hardoute extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk là-bas, dans la parasha Yitro? Il dit, Vayichan Sham Israël, Israël a campé là-bas, neged Ahar, face à la montagne. Ah, qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Face à la montagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rashi explique là-bas que tout le monde était uni devant le Har Sinaï. Donc là, face, neged, c'est un terme positif. D'accord? C'est face. Là, va expliquer l'Admor HaZaken que quand David Améler dit Vechatatim Negdi Tamid, que ma faute est toujours, nous on a compris, ma faute est toujours en face de moi. Ça veut dire que je l'ai toujours devant mes yeux, j'ai toujours la Ramma, la Rasra, tout ce que vous voulez. Non, t'as rien compris. C'est pas ça ce qu'il dit David Améler. Vechatatim Negdi Tamid. Ma faute est toujours loin de moi. Et toujours contre moi. Ce qu'il va expliquer ici. Ça veut dire quoi que la faute est contre ça? Il va expliquer ici. En amekouvan, liot tamid etsev nivze chasve shalom. Ça veut pas dire qu'une personne doit toujours être triste et se sentir dédaignée chasve shalom à cause de sa vérote. Chasve shalom. Dehaktiv vatre. Et c'est pas seulement une intuition qui dit l'Admor HaZaken. Il dit, je te donne une preuve de ce même verset. Que dans ce même psaume, le psaume 51, 5 versets plus tard, qu'est-ce qui est écrit? Tashmir Aini, Sasson, Vesimra. David Améler, il dit, je veux toujours être joyeux. Verruach, Nedivat, Ismecheni. D'accord? Et je veux qu'il y ait un esprit généreux qui m'assiste toujours. C'est que ça veut dire quoi, un esprit généreux? Un esprit souriant. Donc on voit que David Améler, il cherche le sourire, il cherche pas la tristesse ici. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire lorsqu'il a dit que ma faute est toujours devant mes yeux? Il explique. Ou mishum shetzarich liyot kol yamav bitshuva ilash et ibesimcha rabba kanal. Puisque David Améler a envie d'être toute sa vie dans la teshuva. Comme la Gemara Shabbat, elle dit qu'une personne toute sa vie doit faire teshuva. Et là-bas, les commentaires sur la Gemara, ils disent, c'est page d'Afouf Kouftoun Gimel, page 153. Là-bas, la Gemara a dit qu'une personne doit faire teshuva toute sa vie. Alors là-bas, les commentaires disent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire toute sa vie, on doit être triste? Pas du tout. Pas du tout. Chas v'shalom. C'est qu'on doit faire, on doit avoir une teshuva ilaha, une teshuva de haut niveau, ça veut dire qu'on est content d'être retourné vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que David Améler est en train de dire. Toute sa vie, il essaye de retourner constamment encore plus et encore plus et encore plus à Akadosh Baruch Hu. Il est content, il est heureux. Et là seulement, negdi daika. Au contraire, il essaye de mettre l'impact négatif de la faute toujours le plus loin possible de soi-même. Et dès que son Yitzhara veut lui dire, mais attends, tu te rappelles, un jour t'as fauté, Nekdi, lui, t'es contre moi, toi, dehors! D'accord? Kemo, Beata, Titiatsev, Mineged. Comme, dans ça c'est écrit dans Shmuel. Dans Shmuel, c'est écrit qu'il devait être en guerre contre un peuple. Et là-bas, il a dit, toi, tu te Titiatsev, Mineged, tu devras te tenir Mineged contre eux. Pas en face d'eux. Vous voyez comment le terme Neged, il change tout? Quand on va lire le 51, on va comprendre. C'est pas que la faute est toujours face à mes yeux. C'est que la faute est toujours contre moi! Et que tant que je la jette pas, elle sera toujours là pour m'embêter. Il faut enlever, j'ai pas dit qu'il faut oublier qu'on a fauté, il faut enlever le côté négatif de la faute. On a encore un autre exemple, que mineged, que le mot neged peut vouloir dire également contre. Où c'est écrit? C'est écrit au début de la parasha Bamidbar. Dans la parasha Bamidbar, c'est écrit, mineged le oel moed, mineged saviv le oel moed yachanu. C'est quand Akadosh Baruch Hu définit les règles, et il dit que les bnei Israël, la majorité du Ham Israël n'aura pas le droit de rentrer, n'aura pas le droit de s'approcher de la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les Lévites qui avaient le droit de s'approcher, et même eux, ils n'ont pas le droit d'aller partout. Ils ont le droit d'aller uniquement autour, mais pas de rentrer. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le terme neged voulait dire quoi dans ce contexte? Mi neged, ça veut dire qu'on demande au Béné Israël d'être contre, ça veut dire d'être loin. Ou pire est-ce Rashi, qu'est-ce que Rashi a expliqué là-bas dans le mot Neged, dans la paracha Bamidbar? Neged, ça veut dire Merachok. D'accord? Merachok, ça veut dire quoi Merachok? Merachok, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui demande Merachok, qu'on veut que les bnei Israël se tiennent de loin. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que lorsque David Amelech est en train de dire que sa faute est Negdi, nous on a compris Negdi, ça veut dire en face de moi, mais en vérité, il faut comprendre ici Negdi par contre moi, loin de moi. Là, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec le dans la Lashon HaKodesh.
Donc, je ne sais pas, mais on peut utiliser ce terme-là, Kenegdo.
Kenegdo, oui.
Et en plus, c'est la dracha, c'est qu'on peut aussi dans les deux sens. Oui. C'est pas ici, finalement.
Ouais.
Donc, David, si il est dans la faute, ben, il va y avoir encore la faute contre lui. Et s'il est dans la mitzvah,
elle est exactement. Il est contre lui. C'est la femme, elle peut être soit en face de lui, soit contre lui. C'est le même mot, c'est le mot Neged.
Il y a le même double sens.
Même double sens. Aizer Kenegdo. D'accord ? Ça veut dire qu'elle peut être soit en face de lui, c'est-à-dire pour l'aider et pour le compléter, soit contre lui pour lui casser les pieds. Ça, c'est le scout de chacun. Voilà. Mais c'est mamash ça, neged. C'est le mot neged. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que quand David Amelech dit Vechatati negdi tamid, qu'il se rappelle constamment de sa avéra, c'est pas pour dire que l'angoisse de la avéra est toujours devant ses yeux. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'il garde constamment l'avéra loin de soi. Mais écoutez bien ce que l'Admor HaZaken, et ça je pense c'est important ce que l'Admor HaZaken va expliquer ici. Pourquoi néanmoins c'est important de se rappeler qu'un jour on a fauté? Pas pour se rappeler le côté négatif. Vous savez, vous avez des gens quand un jour ils ont fauté, pour le restant de leur jour ils vont être dégoûtés. Ils vont dire, oh, tu sais, moi j'ai fauté, j'ai mal démarré ma vie n'était pas bien, toute la vie va être dégoûtée. Ça, on veut pas. Mais par contre, il est bon de se rappeler constamment qu'un jour on a fauté. Pourquoi? C'est très simple. Là on va désamorcer encore un piège, écoutez. Il dit, va me krouvan, rak levilti rum levavo. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi David Ameler dans le psaume 51, il nous demande de nous rappeler de temps en temps le fait qu'on a fauté, mais de le garder loin de nous, mais de le voir de loin qu'on a fauté, c'est pour pas que la personne ait la gave. Parce que, oui, avec le temps, tu lui dis, oublie ta verrote, après à un certain moment, il commence à se prendre pour un grand sadique, il croit que ça y est, c'est fini, la terre lui appartient. C'est fini, que maintenant, ça a devenu un grand sadique. Il faut constamment se rappeler, attention. Ça veut pas dire que ça doit m'amener un sentiment de tristesse. C'est simplement l'évilti roum levavo. Ça veut dire que David Ameler, pourquoi il se rappelait Tamid constamment qu'un jour il a fauté, c'est pour pas que, ça y en a 10, au prochain. C'est pour pas que Chasvé Shalom il ait un sentiment de Gehava. T'as vu, j'ai fait une Avera et en plus j'ai fait Teshuva. En plus, je suis un Baal Teshuva, je suis mieux que les Tzadikim. Tu vois, le gars, il a écrasé les Tzadikim. Il se la prend pour je sais pas qui. Attends, doucement. Rappelle-toi que t'as fait la Vera, reste tranquille. D'accord? Ne t'excite pas, comme il dit, reste tranquille. Mais c'est-à-dire que le but n'est pas ici de casser la personne, le but est simplement d'éviter qu'il s'enorgueille, d'éviter la Gava. Parce que ça, dans la Chassidoute, la Gava, c'est une des choses les plus graves qui existent. Là, dans ce pérec-là, on touche aux deux choses les plus graves pour la Chassidoute. Selon la Chassidoute, les deux choses qui sont pas une interdiction de la Torah, d'accord, qui sont pas une interdiction de la Torah, mais qui sont encore plus graves qu'une Avera, c'est quoi? C'est la tristesse et l'orgueil. Une personne qui est soit triste, soit orgueilleux, et soit les deux en général, parce qu'en général, une personne qui est triste parce qu'il est orgueilleux. Et comment moi, on m'a fait ça? Donc il est triste parce qu'il est orgueilleux. En général, c'est lié, d'accord? Pas toujours, mais en général, c'est lié, triste et orgueilleux. Ça, pour la chassidoute, c'est les deux choses les plus graves qui puissent exister. Parce qu'une personne qui est comme ça, c'est les bases qui sont détruites. Ça, c'est comme ça, je crois que c'est Rabbi Meir de Primichlan qui avait l'habitude de dire que ce que la tristesse peut faire à une personne, aucune avéra peut le faire. Elle détruit la personne. Elle casse la personne. C'est exactement ce qu'on est en train de parler ici. Depuis le début du Pérec, on n'arrête pas de nous parler de la Simcha. Comment, même s'il y a des choses qui devraient nous mettre un peu dans l'angoisse, on dit non, pas d'angoisse, avance. Et même quand il y avait un mot dans lequel c'était écrit, Verhatati Negdi Tamid, non, Negdi ça veut dire contre moi. D'accord? Bon. Mais il dit à Edmond Razaken, quand même c'est important de se rappeler qu'un jour on a fauté, pourquoi? Pour désamorcer le deuxième piège. Il faut pas être dans la tristesse, ça c'est très grave, dans la dépression. Mais il faut pas non plus tomber dans la gava, dans l'orgueil. Ça c'est très grave. Les vilti roum levavo. Pour ne pas s'élever, d'accord, pour ne pas que son cœur s'élève par rapport aux autres. Vous savez à qui on parle, vous savez à qui on répète ça? On répète ça au roi. Lorsque le roi devait donner son discours au peuple, le Kohen le prévenait. Le Kohen allait voir le roi et il lui disait, il le rappelait, il dit, les vilti roum levavo mechav. Il ne faut pas que tu te sentes orgueilleux par rapport à ton peuple. Bien qu'il a toutes les raisons de quoi se sentir orgueilleux. C'est le roi. C'est lui le patron. D'accord? On le rappelle, on lui dit Levilti Roum Levavo Mechav. Ne t'élève pas par rapport à tes frères, tu es un frère comme tu es un frère à eux, tu es comme tout le monde, tu es comme eux. C'est ce qu'il dit David Ameller. Pourquoi c'est important pour David Ameller de se rappeler qu'un jour il a fauté? Pas pour s'angoisser. Pour éviter qu'il y ait un sentiment d'orgueil qui vienne et qui dise, bon, bah maintenant je suis un tzadik, j'ai tout effacé, c'est fini. Bifne kol ha'adam. Pour réussir à se sentir bas, bifne kol adam, d'accord, bifne kol ha'adam, ça veut dire quoi bifne kol ha'adam, devant tout le monde. Ben oui, parce que je me dis, si moi à mon niveau j'ai fauté, ma avéra à moi vaut plus que 1000 avérotes à l'autre qui ne connaissait pas. C'est-à-dire que quand on réfléchit comme ça et qu'on se rappelle sa avérote et qu'on se rappelle que c'est inexplicable la avérote qu'on a fait, ça nous permet de relativiser notre statut par rapport à d'autres personnes. Et même lorsqu'on voit une autre personne, tu m'entends ici Jacob, même lorsqu'on voit une autre personne, Dieu préserve, qui fait pas Shabbat, etc., et qui fait un peu ce qu'il veut, on relativise parce qu'on comprend que lui par rapport à son niveau, il n'a pas mis le même cœur que moi pour faire la avéra. C'était comme, je veux dire, il connaissait pas autant que moi. Donc pourquoi David Ameller se rappelle constamment sa vérote? Pour qu'à aucun moment il ait un sentiment d'orgueil envers qui que ce soit du homme Israël. Comme il dit ici, Bifne kol ha'adam. C'est l'injonction de Pirkei Avot. Il dit, Ve'eve shfal ruach, Bifne kol ha'adam. Qu'on doit être shfal ruach. C'est quoi shfal ruach? Shfal ruach, ça veut dire humble, Bifne kol ha'adam. Alors, le rabbi nous fait remarquer que ici, c'est pas écrit Bifne kol adam, c'est écrit Bifne kol ha'adam. Si c'était écrit Bifne kol adam devant tout homme, on sait que Adam, qui c'est qui est appelé Adam? C'est Israël. Atem Kruim Adam. Là, c'est écrit Bifne kol ha'adam. Pourquoi on a rajouté le he? C'est le he à motif, ce qu'on appelle en hébreu, c'est un he qui peut rajouter, pour nous dire que c'est même pas seulement envers les juifs qu'on doit se sentir humble, c'est même envers les nations. Et que même chez les nations, on a des gens qui sont tzadikés ou mota'olam. Ils sont chassidés ou mota'olam. L'exemple qui ramène, c'est par exemple l'histoire de Dama ben Netina. Dama ben Netina, on connaît bien son histoire. C'est celui qui avait fait kibbout d'Avaim, qui voulait pas réveiller son père pour récupérer une première fois une pierre précieuse pour le Rochen, et une deuxième fois qu'on appelle ça la clé pour récupérer la vache rousse. D'accord? La Gemara donne beaucoup de shvachim sur le, dans la Gemara Kiddushin, on donne beaucoup de shvachim, beaucoup de louanges sur le fait qu'il respectait ses parents. Ça, c'est ha-adam, ça, c'est le he. Faut dire que David Ameller, même lorsqu'il voyait des phénomènes comme ça, il se sentait petit par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il se rappelait qu'un jour il a fauté. Et qu'à son niveau, même si sa avéra n'était peut-être pas si grave que ça, d'accord? Peu importe la avéra, je m'arrête pas dessus. Mais il se rappelait constamment qu'à mon niveau, c'est plus grave que ce qu'une autre personne aurait pu faire. Et regarde comment il y a des gens bien dans le monde. Ça veut dire que constamment, il essayait de rester le plus humble possible. Donc, deux choses. Premièrement, ne jamais être triste. Deuxièmement, ne jamais être orgueilleux. Si on a compris ces deux choses-là, on gère. Tu as écrit, David, vas-y, écrit. Il a pas dit le genre.
Alors, on gère.
Il a écrit toujours des notes. Si on a ces deux choses-là, numéro un, on n'est pas triste. Numéro deux, on n'est pas orgueilleux. D'accord? On n'est pas prétentieux. On gère la situation. On peut être sûr qu'on va récupérer. Il dit dans les mots. Il continue. Il dit que Sheyé le Zikaron ben Enav, Shechata le Neged Hashem. Quand il va se rappeler, d'accord, Zikaron ben Enav, c'est-à-dire se rappeler entre ses yeux. Alors, se rappeler entre ses yeux, c'est une expression qui est reprise des. Quelle est reprise cette expression? Ben Enecha. Où on dit Ben Enecha? C'est fini. D'accord? Alors, ça veut dire quoi Ben Enecha? Ça veut dire c'est quand c'est quelque chose qui a un rappel constant. Et donc, les Zikaron ben Enav, donc c'est une expression, on va dire, biblique, pour dire que David Ameller voulait avoir le souvenir constant, chez Chatan et Gadachem, qu'il a fauté envers Akadosh Baruch Hu. Mais pas pour avoir un sentiment négatif, Chas v'Shalom. C'est simplement pour ne pas arriver à l'orgueil. C'est pour ça qu'il se rappelle son passé. Pour ne pas arriver à l'orgueil de se dire, ça y est, maintenant je suis devenu un grand sadique, j'écrase tout le monde. Mais Ve'adraba, mais au contraire, les Inyan Asimcha, Yo'il, Zikaron achet beter. Ça veut dire que Zaken, regardez comment il va retourner la situation. Ça, c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant? On a dit que on a désamorcé un piège. Donc, le piège qu'on vient de désamorcer maintenant. On a dit que il y a des gens qui pensent qu'il faut constamment se rappeler de leur avérote. On te dit non. T'as pas besoin de te rappeler ta avérote comme ça parce que ça risque de te rendre triste. Par contre, de temps en temps, d'accord, il faut revoir l'avéra, mais pas l'aspect négatif de l'avéra. Il faut se rappeler le fait qu'un jour j'ai fauté, histoire de ne pas s'enorgueillir, de ne pas arriver à la gava. D'accord. Bon, mais quand même, quand je me rappelle ma vera, je risque de tomber dans la tristesse. Je vais dire, mais attends, comment c'est possible? T'as vu comment j'ai pu faire ça? La Noura Zaken, c'est extraordinaire quand il va retourner la situation. Et va nous expliquer que le fait de se rappeler de ces avérotes, ça va nous amener une joie. Une joie. D'accord? Non mais non, au contraire. Ça doit le calmer, ça doit le rabaisser. Comment ça va amener une joie? Très fort qu'il explique. Regardez bien, dans les mots. En deux lignes, il va le dire, mais... Il va retourner la situation. Ve adraba, au contraire. Leinyan asimcha yo'il zikaron achet beyeter se'et. Le fait de se rappeler de ses avérotes va l'aider à être besimcha. Pourquoi? Birde le kabel besimcha kol ameoraot amitrakshot ubaot. Pour l'aider à accepter avec joie tous les événements, tout ce qui lui tombe sur la tête. Regardez comment il a renversé la situation. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire, si c'est une personne qui se prend pour un sadique, dès qu'il prend des claques, il va dire, pourquoi je prends une claque? Donc du coup, il va être triste. Mais quand cette personne-là, il se rappelle le Tsaverot, et du coup, il n'est pas orgueilleux, du coup, il va être content. Parce que quand il prend une claque, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Baruch HaShem, Akadosh Baruch continue à me nettoyer. Baruch HaShem, je comprends ce qui m'arrive. Donc le fait de se rappeler Tsaverot, non seulement, ça va, pour ne pas s'enorgueillir, non seulement ça ne va pas l'attrister, mais au contraire, ça va lui amener une simra. Parce qu'il va se dire, Baruch HaShem, Akadosh Baruch me nettoie. De quelle épreuve on parle ici? Ben mina shamaim, ben alida abriot. Les épreuves, ça peut être soit des épreuves qui viennent du ciel, et ça peut être des épreuves qui viennent en passant par un canal des créatures. Les gens qui viennent, quelqu'un il vient, il fait une crasse, il dit, mince, pourquoi il m'a fait ça? Tu comprends? Maintenant, si quand il te fait la crasse, tu te dis, tu sais, finalement, je suis moins que lui. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, tu vas dire, ben, Akadosh Baruch est en train de me nettoyer. Bédibour, obéma assez. Et là, il va plus loin. Il dit, Akadosh Baruch, quand il nous nettoie, des fois, il nous nettoie avec la parole, des fois, il nous nettoie avec l'action. Ça veut dire que le plus souvent, il nous nettoie avec la parole. C'est quoi avec la parole? C'est-à-dire quelqu'un t'a dit quelque chose. Maintenant, ça n'a rien changé. Si tu n'avais rien entendu, il ne serait rien passé. Mais je l'ai entendu, je l'ai su. Donc ça m'a blessé. Ça m'a blessé, ça m'a secoué. Ça, c'est Bédibour. Donc des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous secoue comme ça, il nous nettoie. Bédibour par la parole. Et ça, c'est dans la majorité des cas. Vous remarquerez que la majorité des cas où on est blessé, c'est à cause d'une parole. D'accord? Faites le point par rapport à votre femme, vos enfants, vos amis, vos ennemis, tout ce que vous voulez. D'accord? Vous verrez que la majorité des fois où on s'accroche, c'est pour des paroles. Ça s'accroche rarement pour des actes. C'est pour des paroles. Parce que tu as dit ça, j'ai compris ça, etc. Pac, ça y est, ça explose. Ça, c'est Bédibour. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Maintenant, celui qui se prend pour un tzaddique, et qu'on vient par derrière, on lui fait... Il y a quelqu'un qui se moque de lui. Mais attends, comment moi, un tzaddique, on se moque de moi? Il va être dégoûté, il va être triste.
Comment?
D'accord? Comment c'est possible? Mais si maintenant, il se rappelle qu'en vérité, il mérite... Et qu'en vérité, il a encore, et qu'en vérité, il a des avérotes et que Kadosh Baruch Hu est en train de le passer au karcher. D'accord? Il est content. Je dis pas qu'il est content, qu'il dit, tant l'autre joue. Mais il est content, il dit, bon, ben, dans ce cas-là, Kadosh, je comprends ce qui se passe au moins, Kadosh Baruch Hu, nettoie. Ça veut dire que le fait de se rappeler ses avérotes, regardez que c'est très fort comme elle a retourné la situation, la de Mourazaken. Non seulement que ça le rend pas triste, mais ça le rend heureux. Il dit, Baruch HaShem, on me nettoie.
Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il doit faire teshuva?
Bien sûr.
Qu'il ne peut pas prendre sur la tête et se dire bon, ça n'est pas mes fautes.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure de la Gemara Shabbat. La Gemara dit qu'on est constamment en Teshuvah. Mais c'est une approche très 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 positive. Je suis positif, moi. J'avance. Quand tu entends je prends des claques, je dis c'est Baruch HaShem, Dieu y m'aide.
Oui, Baruch HaShem.
D'accord. Quand je me prends pour un grand sadique et je prends des claques, je dis comment Baruch HaShem,
il prend des
Shabbat.
Continue à me lancer des
assiettes.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Vas-y, casse. Non mais c'est vrai que c'est intéressant que la majorité des fois qu'on s'accroche, ça suscite une parole. C'est très rare qu'il y ait un acte. L'acte en général, c'est quand c'est déjà allé loin. C'est pour le café, hein, je ne sais pas si tu veux remercier.
Oui.
D'accord. Alors, Vezo, et d'ailleurs, entre parenthèses, une parenthèse qui est de 4-5 mots mais qui est très très importante. Vezo est cette mida. De se rappeler de ses fautes. Mais pas pour être dégoûté. Pour se calmer un petit peu, d'accord? Pour pas se prendre pour ce qu'on devrait pas se prendre. Arrête sa tova, leinatsel mikas. C'est un bon conseil. Leinatsel mikas pour être sauvé de l'orgueil, de la colère, pardon. La colère. C'est quelqu'un qui est coléreux. Une des techniques qu'on lui donne, ça c'est un bon conseil ce qu'on lui donne là. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, rappelle-toi que si ça tombe sur la tête, c'est que c'est qu'on te nettoie. Donc du coup, il s'énerve pas. Pourquoi je m'énerve? Je m'énerve parce que je suis pas content. Je pense que ça me revient pas. Pourquoi je m'énerve? J'ai l'habitude d'amener souvent cet exemple. Je dis, regardez. Quelqu'un, il vient. Imagine-toi que je passe derrière Yves. Tu m'excuses, Yves. Je te fais comme ça. C'est quoi ton réflexe? Je te retourne. Mais je le fais fort. Là, je l'ai fait doucement. D'accord? Je te retourne.
Je peux y aller,
c'est quoi ton premier réflexe? Qu'est-ce que tu dis? Qui m'a fait ça? Tu te retournes. Et là, il y a deux options. Première option. tu vois que c'est quelqu'un que tu connais qui t'a fait ça, qui t'a fait une farce. Bon.
C'est Yaakov.
Tu vois, c'est Yaakov, il t'a fait un petit massage. D'accord. C'est un massage japonais. D'accord. C'est un massage musclé. Bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu rigoles, tu souris. Si tu vois que c'est un ennemi à toi qui t'a fait ça, le même coup, qu'est-ce que tu fais? T'as envie de lui décoller une droite. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même coup. Le coup n'a pas changé.
Le sentiment que j'ai par rapport à la personne.
Donc ça veut dire quoi? Ça c'est le chaos. Le chaos, ça veut dire que c'est quoi la colère? C'est la manière que j'ai d'appréhender les événements. Qu'est-ce qu'ici? C'est quoi être satova, un bon conseil pour être sauvé de chaos de la colère? Ce qu'il dit ici. C'est le Kabel Bessimra. J'accepte Bessimra, je dis, mais attends, si ça me tombe sur la... Je dis pas que je t'en l'autre jour, mais je dis, si Dieu il me l'envoie, ça veut dire que je le mérite, et ça veut dire qu'il me nettoie, tant mieux. Qu'il me nettoie comme ça. C'est pas évident. Mais au moins, hein, au moins, on le prend pas dans la tristesse. C'est-à-dire qu'on peut prendre des claques et avoir gardé le sourire. Tu sais, le gars, il prend des claques, mais c'est pas possible, il pleure pas, c'est là.
Ça peut déstabiliser.
Bah, bien sûr, ça déstabilise. Omikol Minek Peda. Il décolle une droite, il lui rigole au nez. Omikol Minek Peda. Et de la même manière, c'est un conseil aussi pour toutes sortes de Kpeda. C'est quoi une Kpeda? Une Kpeda, c'est quand on est... Comment peut-on dire Kpeda en français? Kpeda, c'est quand on est... Comment il traduit ça en français? C'est quand on est...
Humilié?
Non, offensé. Offensé, voilà.
Humilié.
Savoir le sentiment d'être offensé. De tout, ça veut dire que pour ne pas être offensé, pour ne pas se sentir offensé, parce que on a des occasions de se sentir offensé toute la journée. Des gens qui disent une phrase, j'aurais pu comprendre ci, j'aurais pu comprendre ça, etc. Pour ne pas avoir ce sentiment-là, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, écoute, tu dois avoir le sentiment que c'est Mina Shamaïm. Tu crois comme ça, il te l'a dit, il était là, ton passage, il a vu ce qu'il a vu. C'est Mina Shamaïm. Donc, Mamar, abotenu, zichronan, vracha. Ça, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara Shabbat nous dit, elle nous dit que, ané lavim, verinam olvim. Elle dit que, on doit s'habituer à faire partie de ceux à qui on fait honte et qui ne font pas honte. Ça veut dire qu'ils ne rentrent pas, qu'ils ne se défendent pas. Shomaim cher patam vehenam meshivim. Ils écoutent leur honte et qu'ils ne répondent pas. Alors, explique le rabbi, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le premier, quand on dit faire honte à quelqu'un, c'est faire honte dans les actions. Et le deuxième, on parlait des gens qui ont eu honte par la parole. C'est les deux vecteurs que j'en ai expliqués. C'est-à-dire qu'on peut avoir honte soit par la parole, soit par un acte qui a été fait contre nous. C'est de ça qu'elle parle à Gemara. Ané elavim vehenam olvim. Donc on doit faire partie de ceux qui sont humiliés par des actes, mais que eux n'humilient pas en retour. Shomim rafatam, ceux qui écoutent leur honte, ve'en meshivim, et qui ne répondent pas. Et ça, c'est la définition, d'un chacham, tel que la Gemara le décrit là-bas. Et c'est ça qu'on doit aspirer à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara ici ne parle pas d'une personne qui n'a pas à quoi répondre. Il y a des gens, ils n'ont pas du répondant. Et tu mets une claque, il est comme ça, il ne sait pas quoi faire. Non, pas comme ça. Sinon, c'est pas un ridouche. Sinon, c'est pas shoot. Il ne sait pas quoi répondre. Excusez-moi du terme, il se la ferme et il s'en va. D'accord? Non, c'est pas ça qu'on parle. On parle des gens qui savent répondre. On parle dans un cas dans lequel tu peux répondre. C'est-à-dire, quelqu'un, il t'a embêté, et t'as de quoi lui répondre, ça te brûle de lui répondre. Et tu peux l'incendier, tu peux l'écraser, tu peux le mettre par terre. Tu peux l'écrabouiller, comme ils disent. Parce que comme un tracteur, il reste plus rien. Il te retient. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Ça, c'est le ridouche. D'accord? Parce que, de quelqu'un on parle là-bas dans la Gemara? La Gemara parle des Talmidei Chachamim, des gens à qui on a fait honte. C'est des gens qui sont très intelligents. Et c'est des gens, en général, quand on leur reproche des choses, que c'est même possible qu'ils n'ont pas fait. Et ils se taisent. Ils peuvent répondre. Ils peuvent dire, mais pour qui tu te prends? Ils peuvent répondre dans tous les sens. Ils disent rien. Pourquoi ils disent rien? Ils disent rien parce qu'ils savent que ça leur vient, Min HaShamayim, ça leur vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, vous avez remarqué qu'ici, il a dit que ces épreuves, c'est-à-dire ces gens qui peuvent se moquer de nous, qui peuvent nous faire du mal dans les actions, Dieu préserve, ça peut venir ben Mina Shamaim, ben Alidé Abriot. Ça peut passer soit Mina Shamaim par le ciel, soit par les Beriot. Alors, c'est quoi Mina Shamaim? Bon, Mina Shamaim, c'est du style, la machine à laver qui casse, enfin, des trucs qui cassent, c'est pas pour comment ça arrive, c'est Mina Shamaim, d'accord. C'est quoi les Beriot?
La machine à laver?
Les Beriot.
C'est pour ça qu'il faut prendre une garantie 5 ans.
Ah oui, mais quand tu dois l'amener plusieurs fois à réparer, que...
Tu vois, chez Darty, il déblaste.
C'est pas que la machine, c'est la machine qui fait un dégât des eaux.
Ah oui, c'est la machine qui fait un dégât des eaux.
La machine, elle marche, t'inquiète. D'accord. Pas.
Alors, ou bien une fois c'est la machine, une fois c'est le truc, etc. Bon, quand Akadosh Baruch Hu dit qu'il envoie une épreuve, il l'envoie. Ah bon, alors, c'est quoi Beriot? C'est quoi Beriot ici? Beriot, on a déjà expliqué plusieurs fois que Beriot, c'est des gens que leur seule qualité, c'est l'être des créatures d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que des fois, ceux qui nous embêtent,
c'est vraiment des gens qui... Vraiment, c'est des gens qui sont pas bien. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Je mérite pas d'être embêté par une personne comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ça, c'est comme ça que je me calme. Je me dis, mais attends, c'est mes Ava, moi. Je dis pas que je suis content. D'accord? Je dis pas que je suis heureux. Je dis à Kadosh, on voit encore. Mais que j'ai complètement une autre manière d'apprécier ce qui se passe. C'est pas que je dis je suis triste. Pourquoi Kadosh Baruch Hu me punit? Je suis Bessimra quelque part parce que moi je sais que Kadosh Baruch Hu est en train de me nettoyer. Ça fait mal, mais au moins je sais où je vais. Ça veut dire que le fait qu'une personne se rappelle sa Averot, non seulement ça le rend pas triste, mais au contraire, ça le amène à Simra, parce qu'il comprend un peu mieux pourquoi il y a des gens qui viennent et qui lui mettent des pièges, qui l'embêtent, qui lui cassent les pieds, soit par la parole, soit par l'action. Rancid, mais Ava, toujours dans la Gemara Shabbat là-bas. La Gemara Shabbat là-bas nous donne donc la définition du Talmid Chacham. Elle nous dit, celui qui, à qui on fait honte, celui qu'on va humilier, donc avec des actes, mais que lui n'humilie pas en retour, c'est-à-dire qu'il se défend pas. C'est celui qui va entendre donc une offense envers lui, donc une offense verbale, en meshivim, mais qui ne répond pas, alors qu'il avait dû répondre, il pouvait répondre. De la même manière, il continue la Gemara là-bas, elle dit, Rossin, mais Ahava, c'est des gens-là qui font, mais Ahava, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est par amour, ils acceptent tout ce qu'ils font par amour, ou smerin, beisurin. Et qui sont heureux, qui sont contents, beisurin de leurs épreuves. Et là, a priori, si on n'a pas cette explication de Mourazaken ici dans ce terrain, je ne comprends pas comment une personne peut être contente de ses épreuves. Parce que la Gemara n'explique pas. Gemara s'arrête là-bas. C'est une agada. Dit, celui à qui on fait honte et qui ne répond pas, celui à qui on a offensé et qui ne répond pas, celui qui est heureux, donc celui qui sert à Kadosh Baruch Hu par la joie et qui est joyeux, Beisurim, là-bas, la Gemara dit, Aleem Akatu Vomer, sur eux, le verset, il dit, Ve'o Avav, Ketset Hashemesh Bikvurato, que Kadosh Baruch Hu, il les aime, et il les aime comme le soleil qui sort, lorsque le soleil a décidé de sortir, avec toute sa splendeur, le soleil va éclairer le monde entier. Qu'on voit comment il fait noir, et dès que le soleil sort, c'est la splendeur du soleil qui va éclairer le monde entier. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comment ça se fait? La Gemara n'explique pas, là-bas. Comment ça se fait qu'une personne qui répond pas, et on considère que c'est bien. On avait parlé une fois ça dans un cours, dans la Torah, hein, on ne lui demande pas de tendre le joug. C'est pas normal. Si je prends une épreuve, pourquoi tu me dis d'accepter son bras? Et là, c'est la réponse. C'est la réponse qu'explique l'Admor Hazaken, c'est qu'en vérité, tout est dans la manière comment on va analyser ce qui s'est passé. Je voudrais illustrer ça avec, puisqu'on approche bientôt de Purim, donc je voudrais illustrer ça avec une autre Gemara, dans la Gemara Megillah. La Gemara Megillah nous raconte que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont posé la question à leur maître. Ils lui ont dit, « Mipnema nitraivu son en shel Israël kliya. » Pourquoi les ennemis d'Israël, donc en vérité quand il dit les ennemis d'Israël, c'est-à-dire qu'il parle d'Israël, pourquoi les ennemis d'Israël ont été chayav, donc ont été coupables de Kliya, c'est-à-dire d'être exterminés à l'époque de Haman? On sait que concrètement on était sauvés. Oui, mais pendant un certain temps on allait mourir. Donc ils ont posé une question à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disent maintenant si on prend du recul, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis cette xéra sur la tête? Vous voyez la manière d'analyser, ils disent c'est pas normal. Si on sait qu'il y avait un Haman, mais Haman ça c'est le Kéli ça. Nous on veut savoir pourquoi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait qu'on était chayav mita et qu'on devait mourir et que si on n'avait pas prié on serait mort. Alors il y a plusieurs réponses là-bas dans la Gemara. Une des réponses c'est mais Hamat sheneenu misoudato shel oto racha, puisqu'ils ont profité de la seouda du repas de ce racha d'Achashverosh. Donc pour ça ils sont chayav mita. Alors Rabbi pose la question, il dit mais ça veut dire quoi? Il dit parce qu'une personne a profité d'un repas. Même si disons que c'est un repas qui n'était pas cachère, disons, d'accord? Parce qu'une personne a profité d'un repas, c'est pour ça qu'on doit tuer un peuple entier. C'est pas logique, il y a un problème, c'est pas normal. C'est pas seulement ça. Et qu'est-ce que tu fais de tous les enfants? De tous les enfants, de tous ceux qui ont rien compris, qui ne sentent pas. Il y a certains mépharchim qui répondent, qui disent que, en vérité, pourquoi c'était grave le fait que les Bnei Israël ont mangé de ce repas? En vérité, ils disent que le repas était cachère. Elle a servi tout, glat cachère, le vin, tout, les tables à part. Il n'y a pas de problème, d'accord? Pardon,
qu'est-ce
que... Kadat, exactement. Kadat, il n'y a pas de problème. Sauf que, explique que mes farchines, c'est quoi le problème? C'est qu'en vérité, à Achashverosh,
il a mis
les affaires du Beth Amikdash, et il avait fait un calcul que, d'après lui, maintenant, on n'allait plus jamais lui reprendre les affaires du Beth Amikdash, qu'on n'allait plus reconstruire. Et donc, à Achashverosh a fait une fête pour ça. Donc, les Bnei Israël ont participé à cette fête, donc là, c'est pas une fête anodine. C'est une fête dans laquelle on est en train de fêter la destruction quelque part du Beth Amikdash, la destruction définitive du Beth Amikdash. Donc on l'accepte, d'accord. Le rabbi dit c'est une bonne réponse, mais ça ne nous satisfait pas entièrement. Pourquoi ça ne nous satisfait pas entièrement? Parce que concrètement, on voit qu'il y a des enfants. Il n'y a que des enfants, et pas tout le monde a participé à ce repas. Il n'y a que les gens, des habitants de Shushan, de Suisse, qui ont participé à ce repas. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Pourquoi les autres devaient mourir? Alors, il y a une approche, encore une fois, je pense, une approche qui rejoint un petit peu ce qu'on a expliqué aujourd'hui, qui va illustrer ce qu'on va dire aujourd'hui. Très intéressante du Rabbi, il dit comme ça. Il dit que dans le Midrash, on compare très souvent le Ham Israël à une brebis parmi 70 loups. Et on dit que Gadol Aroé, la force du berger, c'est que le berger arrive à préserver cette brebis en vie parmi 70 loups. D'accord. Ça veut dire quoi? Quand on analyse cette histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, selon les lois de la nature, cette brebis n'a aucune chance d'être en vie. Impossible. Et si c'est pas un loup qui va l'attaquer, ce sera l'autre qui va l'attaquer. Il y en aura au moins un des 70 qui voudra l'attaquer, c'est sûr. D'accord. C'est quoi la force du roé? C'est quoi la force du berger? C'est que le berger arrive à maintenir la brebis en vie parmi les 70 loups. 70 loups, c'est 70 nations. D'accord. Alors, avec ça, le Rabbi, il a une approche très intéressante. Il dit, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Bnei Israël? Les Bnei Israël, lorsque Achashverosh leur a fait du kavod, qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? La Gemara, on leur a pas reproché le fait qu'ils ont mangé au repas. Parce que, comme on l'a dit, le repas était cachère. Pas de problème. On leur a fait une table à part, du vin cachère. Pas de problème. Où était le problème ici? Plus que ça, du Rabbi. Il dit, halakhiquement parlant, ils étaient obligés d'aller au repas. Parce que Dina de Malchuta Dina, le din du gouvernement, c'est-à-dire, imaginez-vous, Sarkozy vous invite, fait un dîner, et il y a une table spéciale pour les juifs, glad cachère, etc. On est obligé de venir. Dina de Malchuta Dina, ils étaient obligés de venir. Alors, où était le problème ici? Le problème était dans le fait que Nenu Miseudato chez le Toracha. Était dans le fait qu'ils ont profité du repas d'Achashverosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, lorsqu'ils ont été invités par Achashverosh, ils ont kiffé grave. Ils disent, ah, t'as vu, Achashverosh, il nous a invités. Ils se sont sentis valorisés par le fait qu'ils étaient sous la protection, sous le protectorat d'Achashverosh. Et que pour eux, la protection d'Achashverosh était plus importante que la protection d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu dit, vous savez, moi je vous punis pas, moi. D'accord? Akadosh Baruch Hu dit, je vous punis pas, mais il n'y a pas de problème. Moi je me retire.
D'accord? Non, les Allemands, les Juifs allemands, c'est ce qu'ils sont dit.
Oui. Qui c'est qui est là?
Il fait le tour.
Ouais, mais qui c'est? Alors qu'est-ce que... Bon, ok.
Il rentre, c'est pas bloqué là-bas?
Si, il y a quelqu'un qui rentre. Ah, bonsoir. Bonsoir.
Pour dimanche.
Ah, Khazak, ok, d'accord.
Il
y a votre... D'accord, c'est parfait. Ok. Non, il n'y a pas de problème.
Attends, avec le casque et tout, la prochaine fois, tu mets une cagoule comme ça.
On a eu peur, on a vu un casque, il a essayé d'ouvrir.
On était contents.
On a cru que c'était un livreur. Hey, bonne soirée. Quand je suis en train d'expliquer, on va bien expliquer de manière très simple. C'est vraiment c'est aussi simple que brillant. Il dit, c'est très simple. Il dit, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils disent à Kadosh Baruch Hu? Ils sont en train de lui dire, écoute, tu sais, nous on est bien, nous on n'est pas juifs français, on est français juifs. C'est-à-dire, nous on est d'abord français, d'accord? Et après, on est juifs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous on est bien chez Achashverosh. Achashverosh s'occupe bien de nous. Et on est aussi juifs, fin derrière. Qu'est-ce qu'il leur dit à Kadosh Baruch Hu? Ok, dans ce cas-là, si vous voulez pas ma protection, j'enlève ma protection. Qu'est-ce qui va se passer quand on a la protection? Akadosh Baruch Hu n'a même pas besoin de punir l'âme Israël. C'est automatique, le loup il était déjà là. Il dit, moi je fais rien, moi juste je m'enlève. Après tu vas voir, je te laisse, vas-y, débrouille-toi maintenant. Allez, vas-y, saute. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'il s'était bloqué, ils sont revenus chez Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire...
Alors justement, ce que je vais expliquer. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le problème? Le problème de Pourim, vous allez voir comment ça va rejoindre le Pérec. Le problème de Pourim, le problème qui s'est passé avant Pourim, c'est que les Bnei Israël, quelque part, ont oublié la protection d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont accordé plus d'importance au monde à la protection de Achashverosh, à la protection de la nature, qu'à la protection d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, écoutez, il n'y a pas de problème, vous voulez, moi je me retire. Mais il ne les a même pas punis. Tout ça, Rambam explique. Rambam dit que quand Dieu il veut punir quelqu'un, il n'a même pas besoin de le punir. Il dit, moi juste, je me retire. Quand il se retire, après, il dit, allez-y, maintenant, faites ce que vous voulez. D'accord. Maintenant, avec ça, on va comprendre comment Akadosh Baruch Hu, comment on a réglé ce problème. Qu'est-ce qu'on nous raconte? L'histoire de Pourim, c'est quoi l'histoire de Pourim? Il y a eu la Esther qui est devenue la reine, la femme du roi. Et bon, à un moment clé, elle est venue, elle a organisé un petit festin. Elle a invité, elle s'est arrangée pour que Aman et Achashverosh soient là. Et avec une mise en scène, elle a réussi à parler à Achashverosh. Bon, c'est son mari quand même, c'est pas n'importe qui. D'accord ? Oui, d'accord. Bon, ça importe la question, d'accord, mais en tout cas, d'accord ? En tout cas, elle a réussi, donc elle est venue, elle a invité son mari est l'ennemi. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Ben, elle a usé de son charme pour convaincre Achashverosh d'arrêter Aman. Bah, c'est pas un miracle, c'est une histoire diplomatique, c'est ça, c'est pas... On voit des histoires comme ça tous les jours, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. Alors explique le Rabbi dit encore une fois, c'est la même chose. Justement, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. C'est que c'est fait exprès. Quel était le problème des Juifs avant le miracle? C'est qu'ils disaient, nous on se débrouille tout seul, nous le protectorat d'Achashverosh nous suffit. On a un loup qui s'occupe de nous. Il n'y a pas de problème, on s'occupe de nous, il n'y a pas de problème d'Akadosh Baruch Hu. Comment était la solution? La solution, c'est que les Bnei Israël, après, ils ont compris que Achashverosh ne les protégeait pas, et loin de là. Et qu'ils ont dû faire teshuva, ils ont récupéré leur émouna qu'ils avaient en Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu leur a dit, le miracle que je vais vous faire, je ne vais pas vous faire un miracle en vous amenant mont et merveille, comme ce que j'ai fait lorsque j'ai sorti d'Égypte, ou lorsqu'il s'appelle à Hanouka, etc. Je vais vous faire un miracle qui va être intégré dans la nature. Pour vous montrer qu'en vérité, je vous ai toujours protégé comme ça. Et c'était ça votre problème. C'est que tellement je m'occupe de vous, que vous dites, mais attends, mais il n'y a pas de problème, on se débrouille tout seul, nous. Brebis, mais il n'y a pas de problème, je suis très fort. C'est ça la réponse de Pourim, du miracle de Pourim, par rapport au problème qu'il y avait à Pourim. C'est ça que le Rabbi explique. Alors, quel rapport avec notre Pérec? Le rapport avec notre Pérec, il est très simple. C'est exactement ce qu'il explique ici. C'est que les événements sont là. Il y a une personne qui est là et qui m'a fait une crasse. D'accord? Tout dépend maintenant. Qu'est-ce qui va dépendre? C'est l'importance que moi, je vais accorder à l'événement. Vous comprenez? Est-ce que moi, je suis d'abord homme et après croyant, ou est-ce que je suis d'abord croyant et après homme? C'est ça le problème. Si je suis d'abord homme et après je suis croyant, dans ce cas-là, quelqu'un il m'a fait une crasse, je dis attends, d'abord je m'énerve. Après on verra si je suis croyant par derrière. Après on réfléchira si je suis croyant. Ça c'était le problème de la Megillah. Ça c'était le problème. C'est le problème des Bnei Israël qui ont profité du repas d'Achashverosh. Ils ont grave kiffé. T'as vu, ils nous ont invités, t'as vu, ils nous ont donné de l'importance. Ah c'est bien, on se sent valorisé, on est quelque chose maintenant. C'est pas ça. C'est le contraire. D'abord on doit être croyant. Et le croyant doit être un homme. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire un Keli, bien sûr. Il ne faut pas tendre le joug, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais tout d'abord, je dois savoir que tout ce qui m'arrive, je dois d'abord être croyant, je dois savoir que tout ce qui m'arrive vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il fait le Talmid Chacham, ce que la Gemara Shabbat nous dit. Qu'est-ce que nous dit la Gemara Shabbat? Et c'est quoi le Talmid Chacham? Pourquoi il est Bessimra lorsqu'il prend une claque? Pas parce qu'il tend le joug. Parce qu'il est croyant avant d'être homme. Et il sait que s'il y a quelque chose qui lui tombe sur la tête, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de le nettoyer. Donc il dit, pas au Hashem, Akadosh Baruch Hu me nettoie. Parce qu'il est, juif avant d'être français. Aujourd'hui, j'entends à la radio, j'entends français, juif. Juif, français, et encore. D'accord, juif francophone. Aujourd'hui, il dit français, juif. C'est-à-dire, d'abord, il est français, tu vois, et juif. Français, israélite. C'est encore pire, ça. Israélite. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quoi son appartenance? Son appartenance, c'est la France. Mais pas du tout.
Bah, c'est ce qu'ils veulent, à travers la laïcité.
Bien sûr.
Qu'on ait le sentiment laïque.
Voilà notre... après, c'est une erreur. D'accord.
Je suis avec ta joue maintenant.
Je la protège.
Bon. Je la protège.
D'accord.
Non, regarde.
Je vais m'en coller, je lui dis bon, c'est à cause de mon
caboulot. Non, 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 je la protège.
Qu'est-ce que je fais maintenant?
Ça c'est le paradoxe. Ça c'est le paradoxe qu'il y a dans le...
C'est
toujours. C'est le paradoxe qu'il y a à propos de cette fameuse brebis. Qu'est-ce qu'on dit de cette brebis? D'un côté, on lui dit, attention, rappelle-toi qu'il y a toujours un berger qui te protège. Bon, elle dit, bon, s'il y a un berger qui me protège, dans ce cas-là, grand prince, je fais ce que je veux. Non, tu fais comme si que tu veux te battre contre tout le monde. Vas-y, fais comme si que tu te bats, simule, d'accord? Dis, mais attends, quoi ça sert? Toutes les façons, je fais rien. Dis, non, tu vas te battre, t'inquiète pas, il faut que tu sentes que tu te battes. C'est le paradoxe, c'est exactement ça. Ça veut dire que jamais je t'en joue, toujours je me défends. Mais quand il y a une claque qui arrive, bon, je me dis, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé, Akadosh Baruch Hu devra me nettoyer. Donc il y a une simcha. Simcha, ça ne veut pas dire que je suis heureux, que je dis Dieu envoie encore. Mais ça veut dire que quand on comprend où on va, on a plus de facilité à accepter les choses que quand on ne comprend pas pourquoi ça nous tombe sur la tête. C'est ce qu'il dit l'Admor HaZaken ici. Il dit que une personne qui se rappelle qu'un jour il a fauté, il ne doit pas être triste de ça. Ça doit l'aider simplement à comprendre où il va. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, il met des petits obstacles sur la route? Pourquoi?
Que, par exemple, les Japonais ils devraient être contents qu'il y ait le tsunami, quoi, quelque part.
Ça, je... Je t'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de pourri, maintenant.
Dans l'histoire de Pourim, excuse-moi, dans l'histoire de Pourim, on les a prévenus. On les a prévenus. Parce que quand ils participent au repas, on leur a dit attention, ne participez pas au repas, vous accordez trop d'importance à Khajvaroj, ils étaient prévenus. Là, il n'y a personne qui a prévenu les Japonais.
Mais qui les a prévenus?
D'accord, personne n'a prévenu.
Non.
De quoi?
Qui a prévenu?
Mordechai. Non, il les a prévenus, vous savez. D'accord. Vous savez? Oui, 20 secondes avant. C'est pas mal, ça sert toujours.
Non, oui, bah, c'est tout le problème de comment on doit réagir quand il y a une chose. À chaque fois, on reçoit des textos, des télim, des télim pour telle personne, telle personne, telle personne. Ouais, c'est difficile d'être dans la chose et de dire, tiens, si la famille, on envoie ce problème, c'est parce que la chaîne...
Non, ce calcul, on le fait sur soi, pas sur les autres.
C'est difficile de parler comme ça.
Ce calcul, on le fait jamais sur les autres.
C'est la même chose.
Pas du tout. Sur les autres, toujours on doit dire, mais ce qui, le pauvre, que Kadosh Baruch Hu lui vienne en aide. Mais sur soi, on comprend plus facilement. Sur soi, sur moi-même. Toujours on trouvera des choses à arranger. Et c'est ça ce qu'il dit ici. C'est que le fait d'être humble, une personne qui est, on l'a dit, ni triste. Parce que la tristesse, ça effondre une personne. Ça le rend, comment on a dit, déprimé. Ça c'est horrible. Il ne faut jamais, Chas v'Shalom, arriver à ça. Il y a un deuxième point. Le fait de ne pas être orgueilleux, quand quelque chose est mis sur la tête, je dis, écoute, finalement, bon, je le méritais. Ça fait que c'est ce qui fait qu'on accepte beaucoup plus facilement ce qui se passe. Et qu'on ne devient pas Chas v'Shalom orgueilleux. Je continue dans les mots. Alors, voilà. Donc, Vechol Amaavir Almidotav. Il y a encore une autre Gemara. Une autre Gemara dans le traité Rosh Hashanah. Dans la Gemara Rosh Hashanah, on nous dit la chose suivante. On nous dit Vechol Amaavir Almidotav Maavirin Lo Alkol Pesharav. Que. Là, la Gemara Shabbat qu'on vient de citer, elle avait cité des exemples classiques. Ça veut dire, elle a dit celui qu'on humilie et qui ne répond pas, celui qu'on offense et qui ne répond pas, et celui qui est de manière générale content de ses épreuves. Bon, on n'a pas trop rentré dans les détails. Mais la Gemara dans Rosh Hashanah, elle est encore plus explicite. Elle dit « Kol amavir al midotav ». Tout celui qui passe outre ses propres midot. Ça veut dire quoi ces midot? C'est-à-dire que chacun a une mida. Chez certains, c'est la colère. Chez d'autres, c'est la paresse. Chez d'autres, chacun a son problème, d'accord? Non, mais chacun a ses problèmes. Chacun a son problème. Et c'est quoi une personne qui est maavir al midotav? C'est une personne qui, normalement, selon sa nature, il aurait dû réagir tel que sa nature l'impose, et qui se retient. Pourquoi il se retient? Parce qu'il se rappelle que ça lui vient d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? Maintenant, on comprend ce qu'a dit la Gemara. Elle dit que celui qui passe outre ses midot, ça veut dire qu'il... Par exemple, qui ne s'énerve pas alors qu'il devrait s'énerver, qui n'est pas paresseux alors qu'il devrait s'énerver, celui qui passe outre ses midot, qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Maavirin, lo, alcool, pécharav, on lui efface toute sa vérote. Quel rapport? Pourquoi on lui efface toute sa vérote? Maintenant on comprend, c'est très simple. Parce que cette personne-là va comprendre que s'il a pris des claques, c'était pour le nettoyer. Donc la Gemara là-bas, quand elle te dit, celui qui passe outre ses midot, on le nettoie, d'accord? C'est parce qu'elle veut te dire que si on est en train de lui donner des claques, c'est pour le nettoyer. D'accord? C'est ce qui explique le fait qu'on voit des histoires dans lesquelles on a vu des grands tzadikim qui souffraient et qui étaient bessimra, qui disent de rien n'était. D'accord? Et pourquoi ils sont bessimra? Non mais ils sont bessimra de quoi? D'accord? Une seconde. Mais j'ai pas dit de pas crier.
Et encore, on a la chance de vivre cette époque-là, parce que...
Attends.
Peut-être qu'ils n'ont pas dedans.
Ouais, ils n'ont pas dedans, exactement. Mais attendez, écoutez. Il est bessimra de quoi?
Non, il y a une différence.
Comment on peut être bessimra? Non, mais moi, je me suis toujours posé la question. Comment une personne qui souffre peut être bessimra? Tu peux lui demander d'oublier ce qui se passe? Je veux bien. Je vais demander des simras de quoi? Parce qu'il me tombe sur la tête, il donne une claque, vas-y, envoie encore. Non, on comprend ce qu'il explique ici. Pourquoi il est Bessimra? Parce qu'il comprend où il va. Il comprend que ça sert à quelque chose, il comprend que c'est un investissement.
Qu'il soit Bessimra intérieurement, peut-être, mais s'il exprime aux autres, les autres ne vont pas comprendre ça, Simra.
Tu te remets le problème.
C'est ça ou c'est plus... Bien sûr, il ne doit pas l'exprimer quand même.
Il n'exprime pas du tout.
Non, extérieurement.
C'est pour ça, vous savez. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que, vous savez, qu'il y a beaucoup de tzadikim que les gens du peuple prenaient pour des marginaux. Ils voient quelqu'un qui souffre, qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger, ils voient Bessimra, il danse. Mais Mabou, il est fou celui-là. Quel vent l'a piqué, il est fou quoi. Il n'est pas normal. D'accord? Quelle mouche l'a piqué, il n'est pas normal. Parce que c'est difficile à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Dans notre tête, une personne qui est Bessimra alors qu'il a un problème, il est fou. C'est qu'il ne se rend pas compte ce qui lui arrive.
On comprend quand tu l'expliques, on a compris ça. Le problème, c'est de le vivre.
Ah, c'est très dur.
C'est ça le truc.
D'accord.
Alors, on est tous d'accord avec ça.
La théorie, c'est bon.
Mais
la théorie, c'est bon. Bon. On est d'accord sur la théorie.
C'est pas grave.
D'accord.
Donc avec ça, on a conclu le Perek Yudalef. On va commencer par un Kudbet. Donc le chidouche qu'on a eu à la fin du Perek Yudalef, c'est quoi? Le chidouche aujourd'hui, c'est que l'Admor HaZaken nous a désamorcé un autre piège. Il dit que il faut se rappeler de Saverot. David Améler dit qu'il se rappelait de Saverot. Donc s'il faut se rappeler de Saverot, ah, je vais tomber dans la tristesse. Ah, d'abord, l'Admor HaZaken a dit, premièrement, Negdi, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire en face, ça veut dire contre moi. C'est-à-dire qu'au contraire, il dit, la Vera, elle est loin de moi. Il la garde loin de soi. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, nous dit l'Admor HaZaken, le fait d'avoir un œil constant sur sa Vera, et de se rappeler qu'un jour j'ai fauté, non seulement que ça va pas m'attrister, mais au contraire, ça va m'aider à être Bessimra. Parce que comme je comprends que j'ai encore du chemin, et que j'ai fait des fautes et que j'ai des choses à réparer, donc quand j'ai une épreuve qui me tombe sur la tête, je comprends pourquoi ça me tombe sur la tête. Je dis pas que je comprends, mais au moins, je vois vers où ça va. La pire des choses, c'est quand on a quelque chose qui tombe sur la tête et qu'on comprend pas pourquoi ça me tombe sur la tête. C'est la pire des choses. Quand au moins je comprends où ça va, là...
Non, mais quand on comprend pas, tu vois même... Quand on comprend pas, on se rend. L'homme,
il a plus confiance. Par exemple, quand on voit ces attentats à l'Oalenou qui se passent en Israël, d'accord, l'Oalenou, vous comprenez, si on n'a pas de Emouna, et si on n'a pas la Emouna, qu'il y a ici un plan général d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de fortifier la Emouna du Ham Israël par ses chemins, et qui est en train de nous construire, et qui est en train de nous préparer à Mashiach, et qu'on sait qu'il y a les douleurs de l'enfantement, on le sait, c'est écrit, les douleurs de l'enfantement de Mashiach. Je dis pas qu'on kiffe, Ras Shalom, c'est une grande souffrance qui s'est passée. Mais quand au moins, on sait qu'il y a un plan d'Akadosh Baruch Hu, ça nous rassure. Je dis pas que c'est bien ce qui s'est passé, mais au moins ça nous rassure parce qu'on sait que le monde va quelque part. Il va pas nulle part. D'accord. On peut pas expliquer, Ras Shalom, parce que surtout que les gens qui sont niftar, dans les médias, ils ont raconté l'un après l'autre, la femme, les enfants, le mari, tout, c'était des gens extraordinaires.
Imagine quand même le grand-père qui est Rav... Jérusalem, Bakar. Jérusalem, de Bakar, sa fille, ses petits-enfants, que ça imagine...
Le père, il est de la 23 au poste de Nishiva, voilà. La mère, c'est une Mora qui est très 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 respectée.
Voilà, exemple.
Pas seulement ça, vous savez que c'était des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie, parce que c'est des gens qui ont été renvoyés du Gush Katif. Ils ont été renvoyés du Gush Katif, et ils sont venus s'installer à Itamar.
C'est ça.
Et à Itamar, ça leur est tombé dessus. Et pas seulement ça. C'est que c'était même pas eux la première maison à côté de la barrière. Il y avait une autre maison
qui était vide.
Il y avait une autre maison où il y avait des gens, mais ils sont passés à côté. C'est une épreuve énorme. Mais pourquoi quelque part, je ne dis pas qu'on comprend, mais pourquoi le fait d'être croyant, ça nous rassure? Parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Et que tout ça avance quelque part. Je ne sais pas vers où ça avance, mais ça avance quelque part. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici, l'Admor HaZaken. C'est ça, la Simcha. Ça veut dire que d'un côté, on a une souffrance. D'un côté, on a une souffrance. Du fait ce qu'il a expliqué. C'est justement ce qu'on a expliqué au début du Perek Yudalef. Comment d'un côté du cœur, on peut avoir une souffrance, je souffre de quelque chose, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, et d'un autre côté, je peux avoir en même temps une simra, parce que je sais que ça va quelque part. C'est exactement le sentiment qu'on a dans des moments comme ça. Comment d'un côté, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je pleure, mon corps pleure, ça me fait mal ce qui se passe. Mais d'un autre côté, je suis besimra, parce que je sais que si Akadosh Baruch Hu le fait, certainement il a ses raisons de le faire, qu'il est en train de nous faire avancer vers quelque part. Et le corps n'a aucun problème d'avoir en même temps de la simcha et en même temps de la tristesse. C'est ça qui est extraordinaire. C'est très très dur à assimiler.
C'est pas un niveau qui est permis à tout le monde.
C'est un niveau qui, si on nous l'exige, c'est que c'est un niveau qui est accessible.
Est-ce que c'est simcha ou c'est consolation?
Non, attention. Non, la nechama, c'est pas ça la consolation.
C'est un niveau qui permet.
La nechama, c'est pas la simcha. La nechama, c'est la consolation, c'est quand on dit t'inquiète pas, tout ira bien. Bon, c'est qu'on essaye d'atténuer la douleur. Là, c'est pas atténuer la douleur, c'est la simcha. C'est la simcha. On avait dit il y a un mois et demi à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils. Rabbi Shimon Bar Yochai était Bessimra. Après, les deux sont métamiques d'âge.
Je disais la meilleure quand tu disais, il peut pas l'apprendre qu'il est Bessimra.
Bien sûr.
Franchement,
je dis... Il n'y a que ça, oui. Il n'y a que de la Simra. Où tu veux pas eu de la Simra?
Je vois pas, moi, la Simra dans tous les pays, je vois pas. Quand son fils, il veut le tuer, il pleure, et qu'il m'arrive, Je n'ai pas l'impression qu'il est Bessimra.
Ah non, il est toujours Bessimra. Il remercie Akadosh Baruch Hu constamment.
Oui, il remercie, mais est-ce qu'il est Bessimra?
Voilà, alors viens expliquer par exemple ce psaume, le psaume 51, le psaume de référence de la Teshuvah. D'accord?
T'avais dit le contraire il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Quand disait le rabbin par rapport à la Shoah, et qu'il y avait beaucoup de rabbins qui expliquaient que la Shoah, ça avait un sens, que c'était et que le rabbin disait non, c'est au niveau de souffrance. Il n'y a pas de raison, et tu as même dit qu'il avait dit que il était contre les gens qui donnaient des explications.
C'est sûr, ce que je viens d'expliquer, il n'y a pas d'explication. Mais d'un autre côté, encore une fois, d'un autre côté, on sait qu'Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il fait pour une raison. Je voudrais juste rajouter encore un point, et on va s'arrêter là parce que on n'aura pas besoin de commencer le pérec d'après, c'est dommage de bâcler. On avait expliqué au tout début de Guéret Akshuva, et ça je pense que c'est un paramètre important aussi pour comprendre pourquoi on est Bessimra quand on a une épreuve. Que Akadosh Baruch Hu éprouve une personne seulement lorsqu'il pense qu'elle est prête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'une personne physiquement n'est pas prête pour recevoir une épreuve, Akadosh Baruch Hu, il l'éprouve pas. Il dit bon, il est top celui-là, on laisse tranquille.
Mais il y en a qui sont après des épreuves.
Attends, deux secondes.
Laisse-moi expliquer.
J'ai pas dit que chaque fois qu'il y a une épreuve, ça veut dire qu'on était prêt. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsqu'une personne fait teshuva et qu'il veut se faire pardonner, il veut que Akadosh Baruch Hu le nettoie, c'est pas forcément que Akadosh Baruch Hu va le nettoyer. Parce que des fois, il dit Akadosh Baruch Hu, écoute, celui-là, il est pas prêt. Et que des fois, on a besoin de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est prêt à. On est prêt à être secoué, et là, Akadosh Baruch Hu va nous secouer. Et ça, ça pourrait expliquer, c'est le rabbi qui explique comme ça, ça c'est pour expliquer pourquoi celui qui a une épreuve, ça va le rendre Bessimra. Parce qu'il va dire, si je suis Bessimra, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a estimé que maintenant, je suis prêt à être nettoyé.
Ça ne met pas un frein, ça?
Mais pas du tout.
Ça, c'est ce qu'on a expliqué au tout début du
tout début, Gerat Hatshuva.
Au tout début du Tanya, on expliquait un peu ça aussi. Expliquer que
oui.
Nos fautes à être nettoyées. Plus tu vas avancer dans la teshuva, plus tu vas être nettoyé.
Donc, alors, ce qu'on avait expliqué au début du Tanya, c'est qu'une personne.
C'est pas un frein, c'est un petit peu.
Ne doit jamais. Une personne, on avait expliqué au tout début dans Perek Aleph,
qu'une
personne ne doit jamais avoir le sentiment d'être un rachat. Se prendre pour un rachat, alors qu'il ne l'est pas. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, s'il se prend pour un rachat alors qu'il ne l'est pas, dans ce cas-là, on va négliger le terme rachat. Donc, faut pas se prendre pour un rachat. Mais par contre, se rappeler qu'un jour on a fauté, ce que j'ai expliqué ici. Se rappeler qu'un jour on a fauté, et qu'on le mérite, et qu'au contraire, si Dieu m'a envoyé cette épreuve, ça veut dire qu'il pense que maintenant je suis mûr pour recevoir cette épreuve.
Oui.
D'accord? Et ça, on le voit dans la vie plusieurs fois.
Ah oui,
comment? Vrai. Des fois, quand tu commences, tout va bien. D'accord? Et après, Akadosh Baruch Hu t'envoie des petits trucs par-ci par-là, parce qu'il pense que t'es mûr pour recevoir. Ça, on comprend.
Quand on reçoit, c'est forcément un petit individuel, parce qu'il y a aussi un plan global pour ta chute.
Toujours.
Donc, ça veut dire que
pour le monde.
Si quelqu'un a reçu quelque chose, ça veut dire que c'est par rapport à une chose qu'il a fait ou quelque chose. Ça peut être globalement dans le plan de Akadosh Baruch
Hu. Oui, non, mais c'est toujours lié à une chose que lui, il a fait.
Oui, mais c'est parfois, il faut passer parfois.
Des fois, on ne sait pas ce qu'on a fait.
On ne sait pas ce qu'on a fait.
Et ça réveille.
Attention, je reprends ce que j'ai dit à Jacob tout à l'heure. Je n'ai jamais dit, Chas v'Shalom, que chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est suite à une avéra. Chas v'Shalom. Je sais pas ça ce qu'on a dit. D'accord? Ce que j'ai expliqué, c'est qu'une personne qui a fauté, et que, à un moment, il y a des épreuves qui lui tombent sur la tête alors que tout allait bien, et à un moment, il y a des obstacles, il y a des épreuves qui lui tombent sur la tête, le fait qu'il se rappelle qu'un jour il a fauté, ça peut lui amener une certaine simcha. Parce que si Akadosh Baruch Hu me met des épreuves sur la tête, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a décidé que je suis maintenant assez mûr pour me nettoyer. Qu'avant j'étais un petit gamin, maintenant je suis adulte. Donc, ça le rassure. Il dit, bon, je vais passer peut-être quelques moments difficiles, mais ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en train de me nettoyer. Donc ça peut lui amener une simcha.
Le fait que ça tombe sur un tel, ça veut pas dire que c'est par rapport à un tel, mais par rapport à un autre juif ailleurs qui a fait quelque chose et que c'est...
Oui, mais là on parle dans le cadre d'une teshuva pour une personne qui a fait d'averot. Là on parle dans un cadre particulier, là. Personne qui fait des choses comme David Ameller. Parce que David Ameller, faut oublier, à la fin de sa vie, David Ameller, il a beaucoup souffert.
Il n'avait pas dit son beau-père pour ses études. Il en parle pas.
David Ameller, on sait qu'il a beaucoup souffert à la fin de ses jours. D'ailleurs, après cette histoire de Bathsheba, il a beaucoup souffert. Il a souffert avec ses enfants, avec son peuple, avec beaucoup de monde. Il était malade, il a beaucoup souffert, David Ameller. Et là, on voit ici qu'apparemment, David Ameller, il acceptait sa Bessimcha. Pourquoi il acceptait sa Bessimcha? Parce qu'il a compris qu'Akadosh Baruch Hu allait le nettoyer. Je voudrais finir avec une petite anecdote. On raconte qu'une fois, il y a un grand rave qui, Baruch Hashem avait des affaires qui tournaient, et lui, il pouvait être chez Shiva, et il avait des affaires qui tournaient. De temps en temps, une fois par mois, une fois par deux mois, il devait signer les gros contrats et c'est tout. D'accord. Il y avait une fois, il devait miser un gros coup. Donc c'était, ils travaillaient à l'époque, un métier que les juifs prenaient beaucoup, c'était, ils vendaient du bois. Donc ils achetaient des forêts entières, ils vendaient du bois. Ça marchait bien. Donc une fois, il a misé gros sur une grosse forêt, une grosse production. Il a mis pratiquement toute sa fortune dessus. Et lui, il le savait pas parce qu'il a envoyé des gens pour travailler. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé?
Tout a brûlé.
Tout a brûlé, tout a été perdu après qu'il avait déjà payé. Bon. Maintenant, lui, il ne le savait pas encore. Alors, sa femme l'a pris en première. Elle ne savait pas comment le dire à son mari. Je ne sais pas comment il va prendre. Il était déjà d'un certain âge. Alors, elle réfléchit. Elle dit, bon, je vais demander à un de mes élèves, le meilleur élève de mon mari, peut-être que lui, il va essayer de faire passer le message intelligemment. Alors, il va chez son... Donc, elle explique à l'élève. L'élève arrive chez le maître. Et il lui dit, Rabbi, écoutez, j'ai une question. Bon, c'est quoi ta question? Il dit, j'ai appris dans la Gemara Brachot, Perek Ramichi, 5e chapitre, que là-bas, la Gemara dit, de la même manière qu'on bénit Akadosh Baruch Hu sur le bien, on doit bénir Akadosh Baruch Hu sur le mal. Bon. Et là-bas, ça c'est la Mishnah. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Elle dit, ça veut dire quoi qu'on doit bénir Akadosh Baruch Hu sur le mal? La Gemara là-bas, elle dit, le Kaboul et Bessimcha. C'est-à-dire qu'on doit accepter Bessimcha le mal. Il dit, Rav, j'arrive pas à comprendre, comment on peut accepter avec la Simcha le mal? Alors le Rav, il se met à lui expliquer, il dit, ça veut dire qu'on doit savoir que tu viens d'Akadosh Baruch Hu. Non, ça veut dire qu'on doit savoir que tu viens d'Akadosh Baruch Hu et qu'Akadosh Baruch Hu ne veut que du bien. Et lui, il fait un peu hors-kick comme ça, il dit, mais Rav, j'arrive pas à comprendre, mais comment on peut être Simcha concrètement? On a pris une claque, Akadosh Baruch Hu ne nous aime pas. Et comme ça, il insiste, et le Rav lui explique, il dit, mais non, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et Akadosh Baruch Hu, il nous nettoie. Et c'est sûr que la Kadosh Baruch Hu veut que notre bien et qu'on ne le voit pas, etc. Alors, non, il annonce pas. Alors il lui dit, Rav, vous pouvez commencer à danser alors. Le Rav, il a compris, il s'est évanoui. Ça veut dire que la théorie...
La première fois qu'on dit comme ça, la dernière fois. C'est mieux avant,
hein. Ah, il est pas mal, comme ça.
Il vient, Rabbi, j'ai pas compris ce que dit la Gemara, il explique, j'ai toujours pas compris. Alors, il dit, Rabbi, voilà ce qui s'est passé. Tout votre chargement de bois qui était sur le bateau, il a coulé, et, voilà, vous êtes ruiné. Alors, le Rabbi tombe dans les pommes, et puis il se raille, après il dit, je crois que moi aussi, j'ai pas compris ce qu'elle a dit la Gemara.
Moi, je l'ai porté dans cette version, enfin.
C'est toi qui m'as raconté comme ça.
Non, moi ce que j'ai vu, c'est que le Rav il s'est venu en tout cas.
C'est pas le même. C'est le bois qui a coulé. C'est pas la même.
En tout cas, le Rav il s'est venu. Ça, c'est pour illustrer le fait que le comprendre, qu'on a expliqué ici, la simcha, qu'au contraire, c'est-à-dire que maintenant je suis prêt que c'est une chose, mais le mettre en pratique.
L'histoire, c'est la réalité.
Bien sûr, c'est la réalité.
Et le livre, on ne sait pas ce que c'est. C'est de la science-fiction.
C'est que le Rav il a compris qu'il avait encore du pain sur la planche. Alors on s'arrête là. Ouais. Ça c'était le chidouche d'aujourd'hui. S'accepter Bessimcha.
Ouais, le genre de preuves qu'on va recevoir cette semaine. Après un cours, généralement, on a toujours 2-3 indications pour la route à si on a compris le cours ou pas. Regardez l'enregistrement.
Si demain vous avez la télé,
ce n'est que ça, hein.